Bruno Fine, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes le président de Roche-Brune Asset Management. On va parler avec vous de stratégie et de perspective. Peut-être pour commencer ensemble, un petit bilan de cette année 2014. Ça a été quand même effectivement étonnant, parce qu'on pourrait dire, pour résumer, que les marchés obligataires ont bien fonctionné, ce qui n'est pas forcément ce qu'on avait en tête en début d'année. En tout cas, il y a de la performance sur ces marchés obligataires. Puis on a eu quand même plusieurs périodes avec, bien sûr, ce qu'ont fait les banques centrales. Comment vous avez vécu cette année, vous?
Alors, cette année, pour dire qu'elle était difficile, c'est on pouvait faire moins. Il y avait plusieurs occasions d'entrer et donc c'était une année particulièrement heurtée. L'obligataire et le souverain a été rémunérateur et ça fait quand même 5 ans. Alors, avant de parler de 2014, je voulais juste regarder un tout petit peu en arrière parce qu'on oublie que la bourse a pu être bonne. Je parle de l'indice action européenne. Il a progressé de l'ordre de 60%. Depuis 5 ans, avec un accident dramatique, c'était 2011, mais 2010-2014, c'est une pente de progression entre 9 et 10% sur le marché des actions européennes. C'est pas mal, l'obligataire a fait mieux. Donc nous, comment on l'a abordé? On l'a abordé comme on le fait à chaque fois, c'est qu'on ne part jamais du marché, on part des valeurs. Et là-dessus, on doit dire qu'on se porte pas mal, parce que cette année, on réplique la même performance avec notre fonds Europe Action, 9 à 10% sur l'année, aujourd'hui. Et malgré les accidents. Alors, on a plutôt profité des accidents pour renforcer nos convictions sur quelques valeurs qui étaient captives de thèmes généraux, c'est-à-dire retour à la rentabilité. Parce que les années passées ont été consacrées à la solvabilité, remettre les bilans d'aplomb, le tiroir caisse d'aplomb. Et puis cette année, c'est formidable. Si vous regardez les résultats du dernier trimestre, on est dans un niveau assez élevé, même le plus élevé qui ait existé en termes de marge opérationnelle, de marge d'exploitation. Et là, c'est assez formidable, parce que c'est en ligne avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Ça veut dire que quand on n'a pas de croissance, on rentre à la maison et on fait les efforts nécessaires pour mettre de la marge.
Donc quelque part, les entreprises réagissent assez vite à un contexte économique qui reste, si on prend l'Europe, peu favorable.
C'est-à-dire que si vous me parlez de réactivité, je vais vous dire oui, les entreprises sont plus réactives que les États, mais les États ont beaucoup fait et il reste encore beaucoup à faire. Mais je pense qu'on n'a pas d'autre solution que de se mettre dans la situation de rembourser une dette. Pour rembourser une dette, il faut d'abord restaurer son bilan, se défaire de certains actifs, restaurer et réduire des charges. La rentabilité doit être là. Et ensuite, on doit avoir le courage de l'investissement. Et c'est cette année 2015 qui va être favorable à l'investissement. En 2014, finalement, la croissance n'étant pas là, on a continué à faire de la rentabilité et on a différé l'investissement. Mais cette année sera l'année de l'investissement, ou ne sera pas, pour aller capter la croissance perdue de 2016, parce que je pense que c'est à cet horizon-là que ça reviendra.
Oui, parce qu'on pourrait dire qu'au total, il y a un environnement macroéconomique, même au-delà de la zone euro. On a eu des ralentissements dans les pays émergents. Les États-Unis, jusqu'à encore récemment, il y a eu pas mal d'inquiétudes sur est-ce que finalement toutes ces injections de liquidités ont eu de l'effet sur l'économie. Il semble que le consensus dise pour les États-Unis, c'est oui, mais on se pose encore des questions, par exemple, sur les marchés émergents.
Alors, sur les pays émergents, je dirais que je préférerais qu'on s'intéresse aux pays émergents en travaillant par les pays dits émergés ou développés. L'Europe a une chance extraordinaire. En termes de valorisation, je l'ai dit tout à l'heure, les entreprises ayant recréé de la trésorerie, on se retrouve en valeur d'entreprise, c'est-à-dire dette incluse ou trésorerie incluse, avec des niveaux qui sont plus intéressants, malgré la hausse du marché de 10%. Donc, de ce point de vue-là, on a de la place pour aller sur l'Europe et jouer les pays émergents. Les pays émergents, nous ne trompons pas, ce sont les devises qui ont été le plus dommageable pour ceux qui ont su prendre le risque, mais il faut conserver le risque émergent plutôt moins en direct qu'au travers des sociétés européennes.
Justement, il y a eu pas mal de réactions sur les devises. On peut parler de l'euro-dollar, hein, c'est le plus symbolique pour nous en Europe. Il y a eu d'ailleurs à un moment donné beaucoup d'investisseurs qui disaient on va jouer les valeurs dollars, par exemple, en disant ça va être un. Est-ce que pour vous c'est une thématique ou pas, ou est-ce que c'est trompeur finalement ces variations qu'on a pu avoir?
Nous on est bottom-up, donc on est stock picker. Ce qui nous intéresse c'est la création de valeur. Mais on ne va quand même pas passer à côté de certains effets d'aubaine. Donc on ne joue pas une parité bien malin qui peut jouer une parité longue. Ce n'est pas notre métier, la lecture des devises. Mais en revanche, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, la baisse de l'euro relativement au dollar qui se raffermit, qui est de l'ordre de 10%, est un effet d'aubaine de compétitivité que seront captées des entreprises qui sont dans notre portefeuille. Mais attention, on ne se déplace pas vers des entreprises parce qu'elles ont cet effet d'aubaine. On sait que cet effet d'aubaine va donner du levier à la rentabilité. Et ça, très franchement, on le prend volontiers, oui.
Alors, il y a eu aussi à l'inverse le choc pétrolier avec cette chute. Il y en a même qui aujourd'hui parlent de $50 le baril. Donc ça a été très rapide là, en quelques semaines, cette chute. Est-ce que ça, pour le coup, ça remet en cause ou pas une stratégie, cette chute du pétrole ?
Mais alors Didier Esco, j'aime beaucoup cette conversation sur le pétrole parce que, bien entendu, j'y comprends rien au pétrole. Donc je m'exprimerai sur ce que j'ai pu lire et entendre sur le pétrole. Le pétrole, $200 le baril. Il y a des banques anglo-saxonnes, le peak oil, on a eu ça. Donc prenons les argumentaires qui ont valu à ce moment-là. Mais ce qui est très important, c'est que là aussi, pourquoi ne pas tirer avantage dans la microéconomie d'un effet du baril qui, autour de $60, je ne sais pas le prix du baril. Je dis simplement qu'il existe des entreprises, j'en citerai une parce qu'elle me vient à l'esprit, elle vient de rentrer dans notre portefeuille, elle a fait des efforts de restructuration très importants, c'est Acerinox. Eh bien, vous avez des entreprises et des industries qui sont consommatrices d'énergie. Si, en plus des efforts qu'elles ont faits, elles peuvent tirer avantage d'un prix de l'entrant moins cher, allons-y. Donc, il y a des effets macroéconomiques qui sont des effets d'aubaine. Ce n'est pas tout le temps que les étoiles sont alignées.
Alors justement, c'est plutôt favorable. Alors en même temps, vous avez rappelé ces dernières années favorables sur les marchés actions. On pourrait dire que c'est ce que souhaitaient les banques centrales, mais on pourrait dire aussi que de l'autre côté, les particuliers n'ont peut-être pas bénéficié de ça. Finalement, ils ont assisté à cette hausse de la bourse sans y avoir envie forcément d'y retourner. Est-ce que pour eux, c'est trop tard ? Est-ce que c'est...
Parce qu'ils sont passés à côté de ça. Je vais paraphraser, mais il y avait un très bon papier dans les journaux. Et Guillaume Pépi, votre confrère Les Échos, a fait un papier extraordinaire avec 200 chefs d'entreprise. Mais on arrive aujourd'hui à dire que le risque, c'est important. Donc, est-ce que les actions ne seraient pas les valeurs refuges de demain ? J'adore cette expression un peu provocante. L'aversion au risque est très présente, mais il faut vraiment réfléchir qu'il ne peut pas y avoir de rendement sans risque. Et aujourd'hui, tout le monde est à la recherche du rendement perdu. Je veux bien qu'on joue encore le souverain, mais je pense que le grand du chemin a été fait.
Le début 2015, on se dit aussi que l'environnement sur cette partie-là, justement, ça va être une hausse de taux aux États-Unis. Alors, certains la mettent fin d'année 2015, d'autres au mois de juin 2015. On sait qu'historiquement, quand même, si on va un peu plus loin dans l'histoire, que quand il y a ce type de mouvement de banque centrale, ce n'est pas forcément favorable pour celui qui a un portefeuille action, en tout cas pas tout de suite. Alors, comment on gère ça, justement, ce timing ?
Comment on gère ça ? D'abord, les mots en disent long. On va dire en Europe, tout va mal et c'est bien. C'est assez paradoxal parce que si le dollar se raffermit vis-à-vis de l'euro, est-ce que c'est l'euro qui s'affaiblit par rapport à sa situation compétitive ? Est-ce que ce sont les taux d'intérêt bas ? On se réjouit des taux d'intérêt bas, mais s'ils sont bas, c'est parce que tout ne va pas si bien et qu'il faut abonder en liquidité et s'assurer que ça rentre dans l'économie réelle. On parle de la hausse des taux, mais si la hausse des taux États-Unis peut se faire, il faut peut-être aussi savoir se réjouir du fait que si ça se fait, c'est que ça marche, c'est que ça va bien. On est sur un cycle de plus de 5 ans de hausse du marché qui correspond à une économie réelle qui va mieux. Donc le paradoxe, c'est ce que redoute le boursier, c'est la hausse des taux qui viendrait couper cette dynamique. Moi, je pense que le marché américain, d'un point de vue valorisation, il est à son prix. Et que la déformation du marché se fera au rythme de l'économie. L'économie ne va pas mal, donc ce n'est pas un mauvais risque, mais ce n'est pas le risque qui sera le plus rémunérateur. Je préfère garder une main aux États-Unis et avoir l'autre tendue vers l'Europe.
Merci d'avoir fait le point avec nous, Bruno Fine.
Merci beaucoup.